corasso.org.
Corasso, association de patients qui informe et soutient les personnes touchées par un cancer ou un cancer rare tête et cou, plus communément appelé cancer ORL, vous propose un podcast consacré à la chirurgie laryngée. Pour répondre aux questions que se posent les patients, le professeur Béatrix Barry, chef du service ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Bichat à Paris, est avec nous. Bonjour professeur Barry.
Bonjour.
Parlons du larynx. Comment fonctionne le larynx et quelle est sa fonction?
Alors, le larynx, c'est un organe qui permet à la fois de parler et de respirer. Et c'est un organe qui, grâce aux cordes vocales, va permettre de filtrer l'air pour émettre un son. Et après, ce son sera transformé dans la bouche pour faire la voix et les phrases. Et c'est à la fois un organe qui permet de respirer et donc qui va permettre de faire passer l'air pour aller dans les poumons. Mais quand on parle de carrefour aérodigestif, c'est aussi parce que c'est l'organe qui va permettre de protéger le poumon au moment de la déglutition. Et donc, au moment où on va avaler la salive ou des aliments, en fait, le larynx va se comporter comme une sorte de sphincter et va se fermer, se mettre en boule pour laisser passer les aliments en arrière dans l'œsophage, en fait.
Qu'est-ce qu'une chirurgie laryngée ?
Donc, une chirurgie laryngée, c'est une chirurgie qui va avoir lieu sur cet organe assez complexe qu'est le larynx, qui comporte en fait trois régions, la région susglottique, la région glottique avec les cordes vocales et la région sous-glottique qui, elle, est moins souvent une zone opérée.
Dans quel cas pratique-t-on une chirurgie laryngée ?
Alors, on peut pratiquer une chirurgie laryngée pour des pathologies bénignes. On peut avoir, notamment chez les gens qui utilisent beaucoup leur voix, on peut avoir des problèmes de polypes des cordes vocales, avec notamment chez les chanteurs, chez les gens qui travaillent avec leur voix, une réaction de l'organe à une surutilisation, une sorte d'usure, qui va fabriquer une petite boule. Et à ce moment-là, la voix sera moins bonne et on enlève cette petite boule qui et quelque chose de bénin en faisant après une rééducation de la voix pour retrouver une voix normale. Et on peut également opérer pour enlever des tumeurs malignes ou des lésions, ce qu'on appelle précancéreuses. Et notamment chez les fumeurs, on peut avoir ce qu'on appelle des taches de leucoplasie qui vont être des lésions blanches qui peuvent à la longue dégénérer, qui sont une sorte également d'usure, mais là plutôt liée au tabac qu'au surmenage vocal.
Cette intervention comporte-t-elle de nombreux risques, lesquels ?
Quand on parle de chirurgie du larynx, en fait, il y a différents types d'interventions. Il y a des interventions qui se font par voie endoscopique, en passant par les voies naturelles, par la bouche, mais on peut également opérer par voie cervicale. Donc en gros, quand on opère au niveau du larynx, on a le risque de modifier la voix, évidemment, puisqu'on va toucher aux cordes vocales le plus souvent, et on a également un risque respiratoire. Il va parfois falloir protéger en fait les voies respiratoires au moment de cette intervention.
Existe-t-il des greffes de larynx, et dans quel cas le fait-on ?
Alors les greffes de larynx, c'est quelque chose qui relève encore de la recherche. Ce n'est pas une intervention qui est toute courante et qui est faite de manière usuelle. Le problème de la greffe de larynx, c'est qu'on s'adresse à des patients souvent qui ont eu un cancer et donc c'est difficile de leur faire une greffe et de leur donner un traitement qui va immunosuppresseur. Donc la greffe de larynx, elle concerne des patients qui ont eu un traumatisme du larynx. Mais pour l'instant, ça n'est pas du tout quelque chose qui se fait en pratique courante, c'est du domaine de la recherche.
Lorsqu'on prélève un lambeau, comment ça se passe ?
En fait, il n'y a pas souvent besoin de lambeau quand on fait la chirurgie du larynx. Si on a besoin d'un lambeau, c'est plutôt pour une atteinte du pharynx associé au larynx, c'est-à-dire qu'on va manquer de tissu. Au niveau du larynx, on fait des chirurgies d'exérèse sans le plus souvent avoir besoin d'un lambeau. Et quand on a besoin d'un lambeau, ça peut être un lambeau qui est pris au niveau de la peau, de la cuisse ou du bras, ou bien un lambeau qui est pris au niveau du thorax. Mais c'est vraiment des situations pas très fréquentes dans la chirurgie laryngée.
Quelle est la différence entre laryngectomie partielle et totale ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est en fait toute la différence. C'est-à-dire que dans une laryngectomie partielle, on va garder le larynx en partie et donc on va garder ce sphincter. Donc on va pouvoir, en fait, le patient va pouvoir continuer à parler mais avec une voix probablement un peu moins bonne et surtout à manger et à respirer par la bouche. Alors que quand on fait une laryngectomie totale, on fait une intervention où on va séparer le larynx de la déglutition et à ce moment-là, le patient n'aura plus de cordes vocales et va respirer exclusivement par une trachéostomie qui donc est un trou à la base du cou qui va lui permettre de respirer.
À quel moment du parcours la chirurgie est-elle proposée? Plutôt avant la radiothérapie?
La chirurgie, elle est proposée plutôt avant la radiothérapie parce qu'en fait, la radiothérapie ne facilite pas la chirurgie. En fait, dès qu'on a un larynx qui a été irradié, on a des suites opératoires qui vont être beaucoup plus compliquées. Et l'idéal, en fait, c'est de faire de la chirurgie d'abord, d'essayer de faire de la radiothérapie soit à la place, soit après, si elle est vraiment indispensable. Mais les deux ne font pas très bon ménage. Une laryngectomie partielle, lorsqu'elle est irradiée après, on a des résultats qui sont beaucoup moins bons en termes de voix et de déglutition. Et on a également beaucoup de mal à opérer un larynx qui a été irradié. Souvent, on est obligé de proposer une chirurgie un peu radicale, c'est-à-dire une laryngectomie totale.
Quels sont les traitements associés en amont et en aval?
Alors, les traitements associés, c'est pareil, ça dépend du stade. Si c'est une tumeur tout à fait débutante avant la chirurgie, on va ne pas faire de traitement. Si le patient relevait plutôt d'une laryngectomie totale, on va essayer d'éviter de faire cette chirurgie en première intention, sauf lorsque la tumeur est assez avancée. Et donc, on va faire une chimiothérapie parfois pour préciser le meilleur traitement, si c'est la chirurgie ou la radiothérapie. Et parfois, on va faire une radiothérapie plutôt qu'une chirurgie. Il peut se poser aussi parfois la question de faire de la radiothérapie après la chirurgie. Enfin, il y a énormément de cas de figure différents qui vont dépendre surtout du stade de la tumeur et de la décision qui sera prise en termes de traitement avec le patient.
Selon les différents types d'interventions, quelle est la durée moyenne?
Alors, il n'y a pas tellement de durée moyenne. Si c'est une chirurgie endoscopique qui est donc faite par les voies naturelles, la chirurgie est assez rapide. Elle va durer entre une demi-heure, une heure. Parfois, elle peut être un peu plus longue, mais elle est plutôt rapide. Par contre, quand c'est une chirurgie qui est faite par voie cervicale, souvent, il y a besoin aussi d'aller enlever des ganglions. Donc, l'intervention va durer plus facilement 3-4 heures.
La chirurgie laryngée, c'est une opération fréquente?
Alors, c'est une intervention qui est relativement fréquente pour les services d'ORL, qui ont tous l'habitude de prendre en charge cette chirurgie. Après, la chirurgie carcinologique du larynx, elle est fréquente dans les centres qui ont l'habitude de prendre en charge des patients pour des cancers ORL.
Quand on parle de fréquence, justement, ça correspond à quoi? Une chirurgie fréquente, ça correspond à combien d'actes, par exemple, par an?
Alors, moi, je pense qu'une chirurgie fréquente, c'est une chirurgie qu'on fait 4 à 5 fois par semaine dans l'équipe. En fait, on a une pratique qui est assez large puisqu'on va aussi prendre en charge des patients pour des problèmes au niveau de la langue, au niveau du pharynx, enfin de donc je dirais donc 4 à 5 fois par semaine, mais c'est des types d'interventions qui sont très variables, hein. On va pas faire 4 ou 5 laryngectomies totales par semaine, évidemment.
Parlons de la préparation du patient. Quelle est, selon vous, la partie la plus complexe à gérer pour le patient? Comment peut-on l'accompagner? Je pense notamment au soutien psychologique.
Alors, la partie la plus complexe, c'est la modification de la voix. Évidemment, c'est-à-dire que le patient sait qu'après l'intervention, sa voix ne sera plus la même. Donc souvent, il a déjà une tumeur, donc sa voix est déjà un petit peu modifiée, donc il est prêt à accepter une modification de la voix. Ce qui est de très loin le plus difficile à accepter, entre guillemets, c'est la laryngectomie totale, qui est une vraie mutilation, puisque là, il y a une perte de la voix et une nécessité de réapprendre à parler par d'autres techniques. Donc c'est essentiellement dans ce cas-là qu'il y a besoin effectivement d'un soutien. Il faut bien expliquer au patient les conséquences de l'intervention, le caractère définitif de la trachéotomie, et puis les différentes modalités de récupération d'une voix et en tout cas d'un contact avec l'extérieur après l'intervention.
On a pu entendre parler du larynx artificiel, ça en est où?
Alors c'est un peu comme la greffe de larynx, c'est-à-dire que c'est encore du domaine de la recherche parce que c'est un organe qui est très complexe et c'est difficile de remplacer un larynx qui est par un organe artificiel qui va avoir les mêmes fonctions. C'est certainement un très beau projet et ça sera certainement pour les patients une grande aide. Mais malheureusement, c'est encore à l'état de projet et ça n'est pas encore complètement finalisé et parfaitement au point.
Merci beaucoup, professeur Béatrix Barry. Je rappelle que vous êtes chef du service ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'hôpital Bichat à Paris. Vous restez avec nous pour un autre podcast, cette fois consacré aux conséquences fonctionnelles à long terme de la chirurgie laryngée. Au revoir.
Au revoir. Corasso.org.